Disobey,
le podcast qui ne coupe pas la parole. Le renouveau du journalisme d'investigation.
Bonjour Olivier Bailly.
Bonjour.
Tu es journaliste, cofondateur de la revue Médor. Tu as reçu deux prix Belfius, un pour une enquête sur Bipost et un autre pour une enquête sur le surendettement. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette brève description ?
Ça m'a l'air déjà assez complet. Ça fait en effet 15 ans que je suis journaliste indépendant pour divers médias. J'écris des romans également. Je donne cours en tant que professeur invité à l'IEX, donc une école de journalisme. Et voilà, et j'ai pas de thématique particulière. Je suis pas spécialisé ni en économie, ni en culture, ni en politique. Je fais plutôt des sujets sociétaux au gré des rencontres, en fait.
Ok, j'imagine que dans toute cette activité, dans toutes ces activités, il y en a une qui doit te prendre quand même pas mal de temps, c'est Médor. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, la genèse, le projet Pourquoi Médor ?
Alors la genèse, ça commence avec un SPAC Bolo en 2012, au mois d'août 2012, où on est une quinzaine de personnes autour d'une table. On est ce qu'on appelle peut-être pompeusement des producteurs de sens, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes, mais il y a aussi des metteurs en page, il y a des photographes, il y a des gens qui s'occupent de la communication, et on se pose la question de créer un média. Alors je pense que l'initiative venait surtout d'une démarche avant tout journalistique, et de se dire... Ce que l'on a envie aujourd'hui d'offrir à la société belge en termes de production d'informations, on n'arrive pas, on n'arrive plus à pouvoir le remettre à des médias existants pour qu'ils le prennent et qu'ils le publient. C'était des questions, alors certainement d'argent, très clairement, mais également de place, où à un moment donné, on voulait faire plutôt des longs reportages ou des enquêtes, et on ne trouvait plus la place dans les médias, notamment presse écrite en Belgique. Et du coup, on a décidé de créer un média. On l'a beaucoup réfléchi, ça nous a pris 2 ans. On a décidé de l'adosser à une coopérative. Donc la coopérative a été créée en 2014. Et on a tout de suite pris le pli de ne pas vouloir créer un média sur base de bénévolat. On se considérait comme des professionnels de l'information, on voulait être payé pour pouvoir produire cette information. Ça faisait partie, non pas non plus que d'un réflexe corporatiste de dire oh, « il faut vraiment qu'on soit payé pour l'info », c'était aussi une logique de qualité. C'était, il faut mettre les journalistes dans des bonnes conditions pour pouvoir produire de l'information de qualité. Il faut que le processus de création d'information soit de qualité pour que le résultat final soit bon. Et donc ce que l'on a fait pendant 1 an, c'est qu'on a fait ce qu'on appelait des Médorware. On a été chez des gens, on a rencontré par groupe de 5, de 10, de 15, parfois devant des auditoires, et on a expliqué le projet, un peu à la manière d'un restaurant, où on ouvre le resto, on vous montre la salle, on vous montre comment on paye les serveurs, on vous montre comment le cuistot va chercher ses recettes, comment il partage ses recettes, comment il les construit, comment elles évoluent. On vous montre le menu. Et par contre, si vous voulez manger, on vous demande de payer votre plat avant, parce que justement pour pouvoir payer le cuistot, le serveur et ainsi de suite. C'est ce que l'on a fait avec Médor. Et donc avant même la première sortie, la sortie du numéro 1, qui était en novembre 2015, on avait 1500-1700 abonnés. Et on avait, alors le nombre de coopérateurs, je ne me souviens plus exactement, on devait en avoir 300-400 à ce moment-là. Donc okay. Ça c'est la naissance de Médor, voilà.
Et donc tu parles d'un titre qui est adossé à une coopérative. Elle est organisée comment, cette coopérative ?
Alors, la coopérative, elle est organisée avec deux chambres. Il y a la chambre des fondateurs, où là, on est 19. Et il y a la chambre des coopérateurs, où là, ils sont environ 1000 à présent. Et c'est lorsqu'il y a des décisions, les deux chambres doivent valider les décisions. Alors, pourquoi on a fait la chambre des fondateurs ? C'est pour pouvoir protéger l'objet social de Médor. Si demain, une société pharmaceutique ou autre, décide de prendre la main sur la coopérative en envoyant 300 personnes. Les parts sont à 20 euros, donc ce n'est pas un gros investissement pour eux. Ils peuvent le faire et très rapidement modifier l'objet social du titre, qui est un titre qui travaille sur la Belgique, qui fait des reportages, de l'investigation et des portraits plutôt sur du long. Et donc on a gardé, et avec un aspect évidemment journalistique important, donc on veut garder cette ligne-là. Et la structure de la coopérative est construite de telle manière à ce que la participation soit tout de même démocratique, c'est 20 euros la part, elle soit réelle. Les coopérateurs ont véritablement la possibilité de participer. Ils montent aussi au conseil d'administration de Médor. Donc, il y en a 3 sur 7 qui y sont pour l'instant. Mais on a aussi fait en sorte que les fondateurs puissent garder la main sur l'objet social du projet. Peut-être un mot sur la coopérative, parce qu'on avait beaucoup hésité. Ouais. Je pense que c'est une des meilleures idées qu'a eu Médor au moment de sa création. On a fait plein d'erreurs, mais on a réussi aussi certaines choses. Ça, je pense qu'on l'a réussi. Parce que la coopérative nous a amené véritablement 3 avantages. C'est, ou 3 qualités. C'est la transparence, la participation et l'indépendance. La transparence, parce qu'on est obligé de publier nos comptes. Et donc aujourd'hui, vous allez sur le site de Médor, vous allez voir comment on est financé. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est financé à 95-96% par notre électorat. La deuxième chose, c'est la participation. Donc on vient d'en parler. On a des coopérateurs qui sont au conseil d'administration, qui sont évidemment dans la coopérative. Et puis l'indépendance. Alors je reviens avec les 95-96%, c'est-à-dire que nos seuls patrons de presse aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont mis entre 20 et 5000 euros pour faire vivre Médor.
Et tu parles donc des fondateurs, des coopérateurs. J'imagine que c'est le cas, mais est-ce que les auteurs doivent être obligatoirement membres d'une de ces 2 chambres ?
Non, pas du tout.
Ok, donc est-ce qu'il y a une société d'auteurs à côté ?
Non.
Je repense à ça parce que j'ai lu un bouquin il y a quelques temps de Julia Cagé sur Sauver les médias, où elle parle de ça, des nouveaux modèles justement, uh-huh. Et elle parle de la possibilité d'avoir une société de médias plutôt, avec des auteurs qui sont représentés en société, mais ici c'est pas le cas, chaque auteur est indépendant.
Ici c'est pas le cas, maintenant la plupart de nos auteurs, tous nos auteurs sont des indépendants, qui nous proposent à un moment donné leur production, on les accompagne, mais on était jusqu'il y a peu uniquement un trimestriel, uh-huh. Donc ce qui voulait dire qu'ils avaient un lien avec Médor, mais on ne pouvait pas leur demander forcément de venir dans la coopérative, de s'investir comme si ce sont des salariés, par exemple, qui à un moment donné peuvent prendre peut-être une part plus importante dans le capital et du coup contrôlent de manière minoritaire la coopérative. Ici, ce n'est pas le cas. Les personnes sont des indépendants, donc ils interviennent vraiment de manière sporadique. Deuxièmement, les parts sont à 20 euros. Alors, on aurait peut-être pu créer une troisième chambre de journalistes. On a envisagé en tout cas une troisième chambre de libraires, parce qu'on voulait aussi travailler sur le réseau de distribution. Pour finir, on l'a pas créé. Mais voilà, pour l'instant, les journalistes ne sont pas obligatoirement, certains le sont, mais on les oblige pas à devenir coopérateurs.
Et ça se passe comment au moment où il y a un nouveau numéro qui sort ou où vous planifiez plusieurs numéros? J'imagine qu'à ce moment-là, il y a une réunion avec des rédacteurs. Comment ça se passe pour le choix des sujets? Qu'est-ce qui va faire la une? Comment vous travaillez au niveau du vraiment purement de la ligne éditoriale et des contenus qui arrivent dans chaque publication?
Alors, on a la première ligne éditoriale, je l'ai dit au début, c'est vraiment de travailler sur des récits des reportages de l'investigation en Belgique, sur des sujets de société. À partir du moment où on est dans ce cadre et où c'est du journalisme, tout sujet est acceptable, que ce soit du sport, de la mode, du politique, de l'économie, peu importe. Ensuite, on a 2 canaux essentiels pour avoir des propositions. Il y a notre site où on reçoit entre 40 et 50 propositions de sujets par mois. Alors, ce ne sont pas forcément des journalistes, c'est surtout des personnes qui nous disent « ce serait intéressant peut-être d'aller voir de ce côté-là, de travailler sur telle personne, de travailler sur telle structure, parce que je pense qu'il y a un sujet ». En fonction, bien souvent, de la qualité de l'information et de la qualité de l'informateur, on se met en route ou pas. Et ensuite, on a des propositions de journalistes qui viennent vers nous et qui nous disent « moi, je souhaiterais travailler sur tel ou tel sujet ». Là où on fait attention, c'est véritablement... moi, je suis peut-être plus sensible à cette dimension que d'autres au sein de Médor. On est attentif à faire un journalisme véritablement de l'offre. C'est-à-dire que je n'ai aucun intérêt pour ce que souhaite le lecteur. Parce que j'ai une grande estime pour le lecteur et parce que je considère qu'il peut s'intéresser à l'ensemble des sujets qu'on va lui proposer, si on les propose dans un cadre, c'est-à-dire avec un véritable travail qualitatif d'investigation, le journaliste a passé du temps. Mais qu'on lui propose un sujet sur l'adoption, un sujet sur Didier Reynders, un sujet sur les plasmas, un sujet sur les écoles type Steiner, je considère qu'à un moment donné, on a un lecteur qui est suffisamment ouvert pour pouvoir découvrir ces sujets. Et donc, on n'essaye pas d'anticiper la demande, de se dire, bon, c'est quand même la Coupe du Monde, alors on va faire un sujet foot. Tiens, c'est quand même la fête de fin d'année, donc on va faire un sujet sapin. Et que sais-je, c'est la rentrée, donc on va faire un sujet école. Je pense que ce genre de réflexe qu'on retrouve dans beaucoup des médias, d'un moment donné, d'essayer d'anticiper une envie d'une opinion publique, est vraiment contre-productive et ne permet pas, justement, de découvrir de nouveaux sujets. Ce que l'on ramène souvent avec Médor, c'est de dire, ah, en tout cas, on a découvert voilà, telle chose que l'on ne connaissait pas. On a eu un papier sur les Qataris à Verviers, bon, bah, ou à Eupen, on nous a fait un retour, même s'il y avait le club de foot. On a été beaucoup plus loin dans la présentation. On voit bien qu'on a des retours, à un moment donné, de lecteurs qui nous disent, bon, on découvre le sujet. Et déjà, rien que le fait de le découvrir fait que voilà, c'est quasi gagné. La personne apprend beaucoup de choses.
Oui, d'ailleurs, comme tu en parles, en fait, c'est aussi un constat que j'ai pu faire. C'est vrai que dans les structures médiatiques, je pense qu'il n'y a pas plus hiérarchisé et plus pyramidal que comme structure, hein, où c'est vraiment du chef au sous-chef en partant jusqu'en bas. Et du coup, il y a peut-être aussi une dilution des responsabilités quand on est tout en bas et qu'on doit remonter en info. Et donc, chez Médor, on a l'impression que là, vous avez plutôt privilégié un modèle plutôt horizontal, plutôt participatif, avec tous les personnes qui participent à la création de la revue.
Alors, le plus possible, c'est vrai. On s'est aussi organisé... Alors, on a une hiérarchie, mais une hiérarchie qui est tournante. C'est-à-dire qu'on est... Et qui essaie d'être tout de même la plus ouverte possible dans la discussion. Donc, on est 5 pilotes, qui sont des rédacteurs ou rédactrices en chef. Et on a des rôles tournants, c'est-à-dire qu'à chaque numéro de Médor, ou pour le web maintenant, on a un ou une responsable, mais c'est pour un temps défini. Donc ça permet de, ce que l'on dit souvent, de plutôt que ce soit les arguments qui décident plutôt que la hiérarchie, à aucun moment on peut dire « tu te tais » parce que 3 mois plus tard, c'est toi qui devras te taire. Et en même temps, on a tout de même une hiérarchie d'un instant qui permet qu'une personne tranche au bout d'un débat, qui permet de dire à un moment donné. Et ça permet aussi, je pense qu'on a, en tant que, voilà, en tant qu'être humain, on a aussi à un moment donné nos centres d'intérêt, on est aussi sensible à plusieurs sujets, et à d'autres on l'est moins, on n'arrive pas toujours à s'arracher de notre condition, et ça permet justement aussi d'avoir à chaque fois de l'air frais en fait. À un moment donné, des gens qui viennent avec d'autres centres d'attention, et qui permettent de, mais moi, là, le Médor de décembre, je vais le découvrir, je ne connais pas les sujets qui sont dedans, et si ça tombe, je n'aurais pas accroché a priori à ces sujets. Et je suis presque dans la position alors du lectorat où les autres pilotes ont fait confiance à mon intelligence ou à ma curiosité pour que j'apprécie le numéro de décembre.
On a un petit peu abordé le sujet, mais c'est du coup, à mon avis, au cœur aussi peut-être de vos discussions, de vos réunions. Le métier de journaliste en 2019, il a beaucoup changé. Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression, toi, des constats que tu fais, qu'il s'est assez réinventé encore maintenant?
Alors, il est ça fait un petit moment qu'il est dans le virage. Hein. Je crois que c'est un virage qui dure maintenant presque depuis 20 ans. Il se réinvente en tout cas de plus en plus. Ce qui est passionnant avec le web, même si c'est parfois aussi inquiétant, si on peut se plaindre à un moment donné de cette information à flot continu, on a en même temps des nouveaux modèles médiatiques qui sont en train de se créer un peu partout dans le monde, notamment ben, en Europe et en Belgique. Médor fait partie de cette vague, et où les gens réinventent véritablement le média en fonction de leur cadre, économique, en fonction de leur ligne éditoriale, en fonction de la volonté à un moment donné de faire de l'investigation ou d'être sur un angle plus pédagogique ou d'être sur un territoire qui à un moment donné est plutôt vaste, plutôt étroit. Et ça donne des modèles complètement différents. Médor a une bourse pour son projet web. On a eu des contacts avec les autres lauréats. Ça va de Crowd Reporter, qui est un média purement en ligne, qui fait des articles qui peuvent faire 60 000 signes. Donc 60 000 signes, c'est 6 pages du Monde Diplo, pour expliquer une chose, une situation, la situation en Syrie. On a un média comme Civio, qui est un média espagnol, pure player également, qui travaille sur des thématiques très précises et qui après va faire de la militance pour avoir de l'impact, qui va quasi écrire des textes de loi sur base de, des constats qu'ils auront posés. On a, alors là, c'est pas un lauréat, mais c'est un autre média intéressant, Médiacité en France, qui est un média alors payant d'investigation, qui a véritablement remis l'investigation locale au goût du jour, qui travaille donc sur des villes uniquement. Donc je pense qu'il y a, il y a Lille, ça j'en suis sûr. Je pense qu'il y a Marseille, Lyon, et j'ai oublié la quatrième. Mais donc, ce sont autant de médias qui ont des lignes éditoriales assez précises et qui ont des modèles économiques qui sont vraiment adaptés. C'est du sur-mesure, en fait. C'est vraiment du prêt-à-porter journalistique. Et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui dans les médias, c'est que ça ne sert à rien de copier ce qui marche. Ça ne sert à rien, Médor fonctionne. Ça ne sert à rien aujourd'hui, si une personne a envie de créer un média en Belgique, de refaire Médor. Médor n'a pas refait 21, parce qu'on n'était pas dans le même terrain. Médor n'a pas refait Mediapart. Médor n'a pas refait Imagine, qui existait déjà, Imagine Demain le Monde. Médor a véritablement créé son propre écosystème pour pouvoir fonctionner au niveau journalistique. Et c'est ça qui aujourd'hui, et à mon avis, est passionnant dans le métier, c'est qu'on voit, outre Médor, des podcasts de journalistes qui se créent, qui essayent d'inventer un ton, avec des choses très innovantes, des choses qui sont peut-être moins intéressantes, mais en tout cas où il y a un foisonnement, ce qui rend aussi peut-être la tâche du lecteur ou de l'internaute plus compliquée, mais avec un foisonnement qui est une richesse, en fait. Ça, c'est sûr.
Peut-être que tu as cité la revue 21, un des points communs peut-être, c'est un goût pour le journalisme narratif. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi le journalisme narratif?
Alors, je crois que le rôle du journalisme, c'est de traduire le réel. Hein? Et comme dans toute traduction, il y a une trahison. On doit, à travers des mots, à travers un langage, essayer de raconter des choses de manière la plus objective possible. Même si les journalistes n'osent plus utiliser le mot d'objectivité, on essaie de relater des faits. Et donc, il y a malgré tout un récit qui s'inscrit, et qui doit être pensé, et qui doit être structuré. Et donc, le journalisme narratif, pour moi, c'est ça. C'est évidemment faire appel à des techniques peut-être romanesque aussi à un moment donné, d'introduction, de clôture, réfléchir ses personnages, réfléchir les lieux, réfléchir la trame, et embarquer avec soi le lecteur dans un récit où non seulement il va apprendre des choses, mais alors idéalement, il va aussi s'amuser ou prendre du plaisir dans la lecture, parce qu'il y aura un effort d'écriture, un effort de mise en scène qui sera réalisé et qui permettra de découvrir l'information autrement.
C'est vrai qu'on pense au grand reportage à la française, mais aussi et quand même au journalisme américain et à des auteurs de Norman Mailer, Truman Capote, en passant par Hunter Thompson. Mm-hmm. C'est pas toujours forcément la vérité qui les anime, quoi. C'est parfois aussi souvent quand même l'histoire et le côté rythmique de la narration. Est-ce que justement le journalisme narratif, c'est pas privilégier la story à la news?
Alors je pense que le journalisme narratif qui vaut la peine et ce journalisme qui met le récit au service de l'information. Donc qui à aucun moment ne réinvente les faits parce que, je vais inventer la vie intérieure de mon personnage, je vais supputer à un moment donné qu'il a eu telle pensée, je vais émettre l'hypothèse qu'il a souhaité faire telle action. Je pense que ce type de journalisme narratif, mais après, je parle plutôt de manière théorique, parce que je n'aurais pas d'exemple. Mais un Hunter Thompson, on voit bien qu'à un moment donné, il privilégie avant tout un regard extrêmement subjectif, complètement assumé. Moi, je me retrouve moins dans ce journalisme. Quelqu'un comme Guétaliz, qui a fait le rhume de Sinatra, mais toute une série d'autres
celui qui a fait Le Voyeur aussi, non ?
Oui, qui a fait Le Voyeur, qui a fait aussi le portrait d'un boxeur dont j'ai oublié le nom, mais qui était au moment de sa défaite. En tout cas, de ce qu'il dit, et là, on est sur la question de la crédibilité, donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je le crois, il ne réinvente en rien le réel. Il a fait un portrait aussi d'un mafieux italien qui s'étale sur 200-300 pages. Les informations sont documentées, les scènes sont vécues, elles sont ensuite décrites. Après, évidemment, il refait un montage, mais je pense véritablement que là, on a un récit qui est au service de l'information. Alors, petite parenthèse, on a quand même ici en Belgique, c'est peut-être une première, Anne-Cécile Huard qui vient de sortir un livre sur deux meurtres qui ont été commis il y a de ça 5-6 ans dans la rue, et elle en a fait un récit de 300 pages qui sort sous forme de roman, mais ça fait 5 ans qu'elle accompagne la crime. Et là, je pense aussi que c'est un travail, alors où elle a fait un gros travail narratif pour embarquer avec elle le lecteur, mais les faits sont non négociables, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Les faits sont non négociables.
Ça, je fais une petite aparté parce que justement, j'y ai pensé. Je pense, enfin, tu as cité Thalys et d'autres. C'est notamment aussi grâce au travail d'une boîte qui s'appelle Les Éditions du Sous-Sol, hein, qui diffuse pas mal. Ouais. Est-ce que c'est aussi ça pourrait être un projet de Médor, c'est d'avoir une maison d'édition, justement?
Moi, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup. Parce qu'on a, dans chacune de nos enquêtes, on a toujours des tiroirs qui sont remplis d'histoires, d'anecdotes que l'on n'a pas écrites, ou bien de scènes que l'on n'a pas décrites, parce qu'à un moment donné, même si on donne beaucoup d'espace, on va donner, pour un sujet, on va donner entre 6 et 14 pages, ça équivaut à 14 000 signes jusqu'à 25, 26 000 signes. Donc c'est quand même des articles très longs, mais souvent les journalistes font 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de travail parce qu'ils ont envie d'utiliser correctement cette place et donc d'avoir vraiment des informations, quelque chose de très dense, de très condensé. Et donc bien souvent, en effet, on a plus de matière. Si on avait, parce que c'est quand même toujours le nerf de la guerre, si on trouvait un modèle économique pour avoir une maison d'édition, Médor, moi je serais ravi de pouvoir le faire, ouais.
Juste pour clôturer, parce que du coup j'ai fait ça un petit aparté, par rapport au journalisme narratif et par rapport au storytelling, au-delà du fait d'éventuellement, mais ça tu as répondu, de perdre pied avec le réel, est-ce que c'est pas un peu faire le jeu d'un capitalisme pur et dur qui voudrait en fait de dire, tiens, on met en scène le réel pour en faire un produit de consommation?
D'abord, les médias évoluent dans leur société et les médias ne sont pas presque par essence révolutionnaires. Ils sont tout de même souvent le reflet, notamment les médias traditionnels, mais ceux qui se disent alternatifs ne sont jamais que le reflet de l'altérité par rapport au traditionnel. Donc on s'inscrit dans la société. Et en effet, du coup, on doit s'inscrire dans des modèles économiques où on doit pouvoir dégager des profits, non pas pour payer nos actionnaires, mais pour faire vivre nos journalistes. Donc ça, c'est une condition sine qua non, en tout cas pour Médor. Donc ça, c'est sûr que du coup, on doit vendre notre information. On pourra revenir sur la fracture que cela provoque, puisque Médor est à un certain coût, et à un coût certain. Maintenant, est-ce que l'on fait le jeu du capitalisme? Je pense pas. Je crois que l'information est quand même tu parlais d'un produit de consommation, si ça en est un, c'est quand même un produit de consommation très particulier, dans le sens où je pense qu'on a surtout avant tout un rôle sociétal et démocratique. Alors c'est des grands mots, mais je pense qu'en tant que journaliste, on doit vraiment toujours s'en souvenir, c'est qu'on a la chance de pouvoir s'adresser à des centaines, des milliers, parfois des dizaines de milliers de personnes. Et donc c'est une responsabilité aussi. Et donc c'est pas n'importe quel produit de consommation que l'on crée. C'est un vrai produit démocratique qui permet d'amener des pièces à conviction, des pièces à conviction qui alimentent le débat, des débats qui, à un moment donné, créent des idées, ces idées créent des décisions qui peuvent créer des lois. Donc, voilà, je préfère le voir comme un outil de démocratie que comme un outil de consommation. Voilà, ça me fait pleurer tellement ça me touche.
Justement, pour pouvoir susciter ce débat d'idées et justement créer de la discussion, il faut pouvoir enquêter, il faut pouvoir sortir des sujets. De ton point de vue, quelle est la place du journalisme d'investigation dans les médias aujourd'hui, dans les médias traditionnels? Et puis, plus loin, quelle est la place de ce journalisme d'investigation chez Médor?
Alors, je pense que en Belgique francophone, en tout cas, à un moment donné, on a perdu de vue le journalisme d'investigation. Moi, je le mettrais, mais bon, j'ai mon expérience qui est limitée aussi. Ça fait pas 60 ans que je suis dans le métier, mais donc, de ce que moi j'ai vécu, je pense que début des années 2000, on a, avec le virage numérique, des médias traditionnels qui ont mis beaucoup d'énergie sur la modification de support, sur la modification du modèle économique, et qui, paradoxalement, ont un peu perdu ce qui est censé être le core business d'un média, à savoir créer de l'information spécifique, et notamment de l'investigation. L'investigation qui est quand même le type de production journalistique, qui n'est pas forcément le plus noble, mais qui coûte le plus cher. Il faut du temps, il faut parfois beaucoup d'argent, il faut des déplacements. Donc je pense qu'on l'a quitté. Et je crois qu'on a eu aussi des médias qui se sont inscrits de plus en plus en désamour par rapport à un électorat qui ne s'y retrouvait plus et qui a eu une forme, alors est-ce que c'est d'électrochoc ou de prise de conscience, qui fait que l'investigation est tout de même revenue au goût du jour. Et pour ça, moi, je vois tout de même trois indicateurs, peut-être quatre. En tout cas, il y a certainement la création du fonds pour le journalisme qui a permis à toute une série de journalistes, dont moi, de bénéficier de bourses pour pouvoir faire du travail d'investigation. Ça a été une manière de remettre l'investigation au goût du jour. La deuxième, c'est que des écoles de journalisme ont commencé à créer des cours spécifiques sur l'investigation. L'IEX l'a fait, l'ULB l'a fait, l'ULG l'a fait. Et on a eu la création de Médor, qui à un moment donné, on nous donnait très peu de chances de survie, hein. Très très peu. En fait, on ne nous en donnait pas. Et le fait que Médor ait marché, de manière, je le dis vraiment de manière modeste et réaliste, donc on a une place tout à fait discrète dans les médias, mais malgré tout, ça a permis de dire « Ok, c'est possible ». Et je trouve qu'on le voit avec un travail, notamment le VIF, mais c'est vrai aussi pour l'école, la Libre, certainement le Soir, on a un travail d'investigation qui est quand même remis en valeur et reconsidéré. Aussi parce que aujourd'hui, les médias doivent se distancier les uns des autres et doivent pouvoir créer une information spécifique. Il ne suffit plus d'être à la chaîne à un moment donné, de faire à la queue l'interview du type immanquable pour pouvoir se démarquer et créer de l'information. Je crois que aussi on a des lecteurs qui attendent justement de découvrir autre chose. Que l'information va tellement vite que si on se base sur ce que les personnes attendent, 12 heures plus tard, notre information est périmée.
Parfois moins.
Parfois moins, oui. Je dis 12, je suis sympa.
Ouais. Justement, en fait, tu parles du coût du journalisme d'investigation et tu parles en même temps d'un renouveau du journalisme d'investigation. Comment est-ce qu'il se matérialise, là, aujourd'hui, des exemples précis que tu pourrais nous donner?
Comment il se matérialise?
Oui, bah, des sujets, des papiers que tu as vu sortir ou des tendances dans les médias traditionnels ou dans d'autres, des choses qui t'ont percuté en disant, bah oui, là, ok, je sens, j'avais vu le frémissement et là, je me rends compte maintenant qu'il y a effectivement un renouveau. Quoi, quelque chose.
Moi, je trouve de la ligne éditoriale qu'a créé Thierry Fiorilli au VIF, quoi qu'on en dise, à côté des numéros Batibo et le énième franc-maçon et ainsi de suite, je pense qu'il a remis à un moment donné au goût du... Ils ont sorti au Geofund avec David Leloup. On a toute l'affaire du Kazakhgate qui est sortie à un moment donné. Alors on a évidemment l'affaire Netis qui a connu tout de même ses prémices chez Médor, qui a continué au vif et le soir avec Xavier Kounas et Joël Matrice qui ont fait un gros travail sur, sur la question. On a eu le SAMU social de La Libre. Et on a de travail de fond, de gens comme Frédéric Laure, Paris Match. Alors tout ça, ce sont des gens qui n'ont pas attendu le virage, souvent. Pour, c'est un peu, pas les derniers, c'est peut-être les premiers des Mohicans qui travaillent sur l'investigation. Mais on a tout de même... Et alors, bon, il y a Médor aussi, qui est avec quelqu'un... Ben, alors, je ne vais pas citer, parce que alors, je pourrais en citer beaucoup, et il y en a qui vont m'en vouloir de ne pas les avoir cités.
Je crois que tu en as cité pas mal. Ouais. Peut-être la sous-question derrière, comme tu es aussi professeur invité à l'IEX, tu sens un engouement des journalistes en devenir pour le journalisme d'investigation?
Alors c'est toujours très difficile à dire, parce qu'on a, une classe de 20-30 élèves, et... je pourrais pas dire qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Il y a aussi une prise de conscience de la précarité, je pense, de la profession. Et de nouveau, on a plutôt une poche de 5, 6, 7 élèves, mais qui véritablement, par contre, ont l'intention de se lancer dans les sujets, de se lancer dans du long format. Et donc la vocation existe toujours.
Tu évoquais aussi tous les marronniers qu'il peut y avoir dans la presse, tu évites du coup aussi de certains reportages et donc forcément de la facilité à bâtonner de la news ou à faire du copier-coller. D'après toi, la mission essentielle d'un média d'information, ce serait quoi?
Pour moi, c'est de nourrir la société, d'éclairer des enjeux. Alors les éclairer soit en nourrissant le sujet et en permettant aux personnes d'avoir une meilleure connaissance du sujet pour prendre des décisions ou simplement pour avoir une réflexion, ou d'éclairer des enjeux qui sont cachés. Là, on en vient à l'investigation. J'étais en classe il n'y a pas longtemps à Ouï, dans une école, et j'avais face à moi des élèves de 7e professionnel qui s'informaient, mais de manière un peu rapide, sur les réseaux sociaux ou bien via quelques tout même médias traditionnels. Mais c'est intéressant de voir à quel point, à un moment donné, quand on est dans une situation concrète, c'est-à-dire la réputation de leur école, il s'est passé quelque chose, à quel point, à un moment donné, on se rend compte qu'on a besoin d'informations, en fait. On a besoin d'informations et de sources d'informations fiables, pas de nouveau dans un réflexe corporatiste de oh, c'est vraiment important d'avoir des journalistes, simplement parce que de tout temps, pour prendre des décisions, pour soutenir des idées, pour créer un débat, on a à un moment donné besoin d'un socle de faits qui sont révélés, qui sont expliqués, et ça c'est le rôle du journaliste. Et donc pour moi, voilà, c'est... et je crois qu'il y aura toujours du journalisme, toujours cette pratique de ramener des faits, d'essayer de les expliquer et d'essayer de les révéler.
La mission, comme tu l'as décrit un peu, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté utilité publique, il y a aussi un côté noble, mais du coup ça pose quand même une question essentielle, c'est le financement de la presse, parce que pour faire toutes ces actions-là, il faut à un moment donné qu'il y ait un équilibre quand même, il faut payer tous ces gens, ouais, qui vont travailler et tout. Et donc au niveau du financement de la presse, des aides publiques, il y en a qui pensent qu'il faut en finir, parce que ça existe, la presse est en partie subsidiée. Oui. Il y en a qui disent qu'il faut des conditions d'accès beaucoup plus drastiques, mm-hmm, et pas accessibles à tous. Et puis il y en a d'autres qui disent qu'il faut complètement élargir, au contraire, et qu'il faut une pluralité de la presse. Et mm-hmm. C'est bien. Mm-hmm. Ta position à toi, tu en penses quoi?
Alors c'est pas du tout chèvre-shootiste, ou c'est pas essayer des... mais je pense qu'il faut, comme je pense qu'il faut une pluralité d'offres, et une biodiversité journalistique, je pense que c'est la même chose au niveau du financement. Alors moi, je suis clairement pour les aides à la presse, même si Médor n'y a pas accès, parce qu'on est une coopérative, ce qui est quand même un scandale. Mais donc, je pense que c'est un rôle de l'État de soutenir à un moment donné ce pilier démocratique. Donc pour moi, il doit y avoir des aides à la presse. Est-ce qu'elles doivent être conditionnées à une pratique journalistique et un respect du code déontologique? Cela me semble mettre une lourde responsabilité sur le conseil de déontologie journalistique, où à un moment donné, ces avis ne risquent de ne plus être uniquement lus comme des sanctions purement journalistiques sur les pratiques, mais aussi des sanctions financières. Et donc, comment à un moment donné donner à ce point la responsabilité au Conseil de déontologie journalistique pour qu'à un moment donné, on retire des subsides et donc des emplois et donc une capacité de travail à un média. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Maintenant, sur les autres modes de financement, bon, moi j'en reviens, désolé de défendre mon bout de gras, mais à la coopérative qui me semble vraiment un excellent moyen pour financer un titre. Évidemment, les ventes, et ça paraît un peu absurde, mais on y revient de plus en plus. Je lisais un article sur les médias scandinaves où, véritablement, même s'il y a une autre, là-bas, une autre culture de l'information, aussi un accès au pure player qui est beaucoup plus naturel, parce que je crois qu'il y a un taux de pénétration de 95% des smartphones en Norvège, en Suède. Donc on est dans un contexte différent, mais où en même temps, les médias se financent de plus en plus par les abonnements et par le lectorat. Et ça, malgré tout, c'est un cap qu'il faut évidemment maintenir. On peut toujours avoir des revenus complémentaires, mais pour moi, c'est le lectorat qui doit amener la majorité des revenus. Je suis plus inquiet de titres de presse qui, à un moment donné, modifient leur raison d'être ou agrandissent leur éventail d'offres, mais que ça va alors du voyage à des paris sportifs, à une conciergerie, à du public reportage clé sur porte, où à un moment donné, je pense qu'il y a une confusion des rôles, et que c'est peut-être bien de garder un rôle avant tout de créateur d'information dans un titre de presse, et pas devenir un groupe comme on en connaît en France, où à un moment donné, il y a des multiplicités de rôles, de fonctions, et on voit bien que il y a plus que d'ambiguïté entre les différentes fonctions, alors.
Et quand même, le marché en Belgique francophone, il est ultra concurrentiel quand même. Même si c'est relativement géré, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas trop de titres en Belgique ?
Alors, il n'y a pas trop de titres. C'est impossible qu'il y ait trop de titres. Donc, j'en reviens à la logique de biodiversité. Donc, plus il y en a, mieux ce sera. En tout cas, des titres qui, à un moment donné, participent au débat démocratique avec des pratiques, de nouveau, pratiques journalistiques, respect du compte de déontologie. Alors, si... Par contre, est-ce que c'est viable économiquement ? Je crois qu'on pourrait avoir, en tout cas, dans le secteur alternatif, n'importe qui d'autre à ma place dirait « on est là, c'est difficile ». C'est difficile, on n'a jamais assez de lectorat, on est toujours tout juste sur base de notre modèle économique. Alors, Médor avait très bien démarré, maintenant on lance une offre web qui rend encore un peu les choses plus tendues. On essaie de créer plutôt une communauté avec une forme d'engagement aussi dans la création de l'information, de justement se réinventer, on en parlait, la manière de créer de l'information. Et donc tout ça demande de l'énergie qui demande du temps qui vaut de l'argent. Et donc, de nouveau, je pense que c'est très intéressant que ça existe. Est-ce qu'il y a trop de titres pour revenir à la question ? Si c'est le cas, des titres mourront. Et la question, c'est est-ce que ces titres remplissent leur fonction de nouveau démocratique ? S'ils meurent alors qu'ils remplissent cette fonction démocratique, est-ce que c'est pas du coup à l'État à essayer de faire en sorte de créer un écosystème pour faire en sorte que ces médias puissent coexister ? Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné aussi soutenir des réseaux de librairies ? Est-ce qu'on ne peut pas à travers une fiscalité encourager des titres à exister ? Mais simplement à travers des tarifs d'envoi, à travers... je ne sais pas, mais à un moment donné, il doit y avoir moyen de créer des écosystèmes pour que ces titres de presse existent.
Parce que si on prend le modèle des médias traditionnels et implantés depuis longtemps, la moitié de leurs sources de revenus provient de la pub. Ça, je veux dire, à partir du moment où un média a créé son audience, il la monétise d'une manière ou d'une autre, et la pub, c'est plus ou moins 50% des rentrées. Est-ce que justement, ces titres ne sont pas trop tributaires de cette manne financière ? Est-ce qu'on peut encore informer librement dans ce cadre-là ? Est-ce qu'il n'y a pas une génération de conflits d'intérêts possible ?
Alors, c'est clair. C'est très très clair qu'à partir du moment où on est dépendant de la pub et sans doute de gros annonceurs, pour moi, ça met en péril la liberté d'informer. Alors je ne pense pas que ce soit au niveau des journalistes, qui sont plutôt des têtes dures, hein, voire même pas au niveau des rédactions en chef, mais bien souvent ça se joue dans d'autres sphères où à un moment donné, il y a des logiques d'influence et de connivence qui font que certaines informations vont sortir de manière plus difficile ou, lorsqu'elles sortent, il va y avoir quelques coups de téléphone qui vont faire en sorte que il va y avoir une menace de retirer tel ou tel, tel annonceur. On l'a vécu avec le cas de Netis et de vous. Je pense que le soir, en sortant des informations, avait eu ce type de, non seulement de menaces, mais qui ont été mis à exécution. Et donc, c'est évident que être tributaire de la publicité, alors, non seulement ça met en péril l'information, mais ça crée aussi des médias complètement aberrants, où ça n'est plus le support principal, n'est plus l'information et à côté les publicités. Le support principal devient la publicité, et puis on essaye de trouver de l'espace pour créer de l'information, pour quand même attirer le chaland. Avec un modèle de nouveau aberrant, mais j'espère qu'on l'a quitté, mais je n'en suis pas sûr, de titres qui annonce un surtirage pour pouvoir avoir des annonceurs qui mettent plus cher, évidemment, dans leur page, et ensuite envoyer au pilon 70% ou 80% de la production. Mais peu importe, puisque le tirage était de 200 000, les annonceurs auront payé. Le papier ne coûte pas encore si cher que ça. Et donc, ça permet à un moment donné de créer un modèle économique qui est aberrant au niveau écologique, qui au niveau de l'information ne donne rien du tout, et qui au niveau des annonceurs, pour finir, ils se retrouvent aussi tout de même perdants dans l'histoire.
Et dans le cadre justement en plus du marché publicitaire, il y a maintenant aussi qui a une part de plus en plus grande, c'est le marché publicitaire online, tout ce qui est pub digital. On a Facebook et Google qui sont les deux grands acteurs, ils captent plus ou moins 80% du marché. Et donc face à ce monopole des GAFA, les médias ont dû développer, tu l'as cité tout à l'heure, différentes stratégies pour étoffer leur modèle, et on est arrivé notamment au mur payant, alors que beaucoup de gens ont connu l'information tout gratuit sur Internet. Là maintenant, on fait plutôt marche arrière. Est-ce que tu ne penses pas qu'on se retrouve encore plus avec un contenu, avec de l'enquête, avec des dossiers qui sont finalement accessibles à une minorité de personnes, parce qu'il y a justement ce frein du budget, quoi?
Si, c'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a de l'information gratuite qui risque d'être de l'information copier-coller, parfois peu vérifiée, parfois de l'information de blog. Et il y a de l'information payante qui se trouve derrière un mur. Alors pas toujours, on peut parler de l'exemple du Guardian, mais qui est sur évidemment un lectorat qui est immense, mais où l'information est accessible gratuitement. Pour moi, c'est évident, c'est une des questions, en tout cas qui taraude beaucoup Médor, c'est qu'on participe à la fracture journalistique. Je pense, on ne fait pas d'enquête de lectorat, mais je n'ai pas trop de difficultés à imaginer que les personnes qui mettent 17 euros dans un Médor, ou aujourd'hui 90 euros pour avoir accès à la fois au papier et au web, sont des personnes qui sont déjà sensibles à l'information, déjà engagées dans la société, et qui donc sont peut-être des gens surinformés, et qu'on laisse sur le côté toute une série de personnes qui pourraient malgré tout nous lire, mais qui pour des questions monétaires ne le font pas. Alors, pour Médor, on a quand même développé des systèmes qui permettent d'avoir accès à l'information à tarif réduit. On est le seul média, je pense, article 27, donc Médor était accessible à 1,50€, je pense, et on a fait une formule, évidemment, sur base de simples déclarations de précarité, ce qui est déjà pénible à faire. Donc les gens payent 54 euros au lieu de 90 euros. C'est un début de réponse. De notre côté, mais de manière globale, il est évident que si vous souhaitez avoir accès au monde diplomatique, c'est 60 euros par mois. Si vous voulez avoir accès à des quotidiens, vous allez vite payer 200, 300 euros l'année. Si vous voulez des revues spécialisées, les tarifs peuvent être véritablement considérables. Et plus l'information est spécialisée, de qualité, plus vous allez à un moment donné avoir des tarifs qui vont être, alors j'allais dire prohibitifs, en même temps, je me tire une balle dans le pied, parce qu'il y a des journalistes derrière qui créent cette information. Mais donc, alors là, on est vraiment dans un débat de société, et j'ai presque envie de renvoyer la balle là aux politiques, en disant de nouveau, est-ce qu'à travers des soutiens, des mécanismes de soutien, on ne doit pas faire en sorte que l'information de qualité soit plus accessible au plus grand nombre. Mais le constat aujourd'hui, je le partage, c'est de dire, en effet, à part certains modèles atypiques du style de Guardian, l'information de qualité est aujourd'hui derrière des murs payants.
Ça m'amène tout doucement à la conclusion, aux conclusions qu'on pourrait apporter. Est-ce que l'utopie d'Internet, donc cet accès au savoir et à la culture pour tous, gratuitement, pour le plus grand nombre, est-ce que cette utopie n'a pas un peu vécu ?
En tout cas, elle se cherche un modèle. Elle se cherche un modèle pour s'inscrire dans le réel. Et ce réel, j'en reviens du coup aux conditions de production, aux conditions de création ici de l'information. Je crois malgré tout qu'on a accès à une quantité d'informations de qualité qui est assez importante. On va aller de la RTBF à, je l'ai dit, de Guardian, le New York Times, on va avoir un accès à un moment donné de 5 papiers en ligne, où on a d'autres sites type ProPublica. Donc je crois qu'il y a quand même une proposition qui est de grande qualité. Donc je crois que l'utopie vit. Donc l'information de qualité est accessible. La difficulté, c'est de montrer les chemins. De permettre aux gens d'y avoir accès, pas juste en cliquant, mais peut-être en les accompagnant dans la lecture, en rendant aussi certaines lectures moins arides, plus accessibles, pourquoi pas plus ludiques, avec d'autres formes, d'autres supports. On a parlé beaucoup de l'écrit ici, parce que moi je m'inscris plus dans l'écrit, mais l'Internet propose en termes d'infographie, de création à un moment donné journalistique, des créations beaucoup plus novatrices. C'est très vaste en fait. Et donc peut-être que là, il y a encore d'ici 5-10 ans, avec un papier qui va être de moins en moins présent et de l'information qui va être de plus en plus sur le net, on va continuer à se réinventer, on va avoir des formes de plus en plus créatives et peut-être, je l'espère, plus démocratiques, à la fois dans le financement, mais aussi dans l'accès à cette information, sans tomber dans de la simplification à outrance, sans tomber dans du buzz ou du putaclic comme on a pu vivre, ou de la réécriture stylistique comme on peut voir, où on a des titres qui soi-disant n'appellent qu'une chose, c'est que l'on clique sur, et donc ça modifie même la manière dont on écrit, et ça la modifie en l'appauvrissant, quoi. On arrive vraiment dans un style un peu pitoyable au niveau du web.
Enfin, une dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Médor pour la suite?
Alors à court terme, de vivre. Et à moyen terme, à long terme, ou à la fin de sa vie, d'avoir eu de l'impact sur des enjeux de société.
Merci Olivier.
Merci à toi. Oh,